quelques mots de contexte, même si cet été vous pourrez étudier la fin de l'évangile de Marc. Je crois que ce chapitre 6, est en réalité, la fin du chapitre 6 est en réalité, je pense, à lier avec les versets de ce matin, et donc je pense que c'est important que je les rappelle. À la fin du chapitre 6, Jésus, après avoir marché sur l'eau, se rend à Génézareth, et il produisit là un grand nombre de guérisons. Les malades de la région entière accouraient vers lui en espérant pouvoir le toucher lui, ou toucher même simplement le bord de son vêtement. Et ce chapitre 6 se terminait avec cette phrase: tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Ainsi, en touchant Christ, les malades furent guéris. Et c'est merveilleux. Jésus les a rendus rituellement purs vis-à-vis de la loi de l'Ancien Testament. Tous ces malades ont enfin la possibilité d'aller au temple, ce qui leur était impossible avant, étant considérés vis-à-vis de la loi impurs. Et c'était peut-être la première fois pour certains qu'ils pouvaient enfin aller à la rencontre de Dieu au temple. Et dans les versets que nous étudions aujourd'hui, viennent les pharisiens. Pharisiens qui annoncent à Christ: tes mains et celles de tes disciples ne sont pas pures. Jésus vient de guérir et de purifier un grand nombre. Et voilà que maintenant, il est accusé, lui, d'avoir des mains impures. Et donc, d'être impur aux yeux de Dieu. Alors qu'il vient de purifier des malades, Jésus est accusé d'être impur. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Voilà les pharisiens, ceux qui suivaient Jésus en espérant pouvoir prouver qu'il n'était pas le Messie. Parce que ne nous trompons pas, s'ils suivent Jésus, ce n'est pas en espérant qu'il soit le Christ, celui que Dieu envoyait, mais c'est pour pouvoir le discréditer. Dès le chapitre 3, il nous est dit qu'il cherchait à faire mourir Christ, Marc, chapitre 3, verset 6. Pire encore, les pharisiens vont même s'unir avec leurs propres ennemis, les partisans d'Hérode, pour chercher à tuer Christ. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Les pharisiens sont venus de Jérusalem, ce qui fait 150 km à peu près, à pied, ce qui montre bien leur détermination à l'égard de Christ, pour pouvoir contrer Jésus, pour trouver une raison valable de le mettre à mort. Et c'est pour cela qu'ils viennent accompagnés de spécialistes de la loi. Il faut trouver une raison valable pour pouvoir tuer Jésus. Les plus pointus des théologiens trouveront bien quelque chose à redire, à reprocher. Et il ne leur faut pas longtemps pour trouver leur premier reproche. Ils virent quelques-uns des disciples de Christ prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains impures? Ce Jésus qui, au chapitre précédent, mangeait avec des pêcheurs, des collecteurs de taxes, le voilà maintenant qui laisse ses disciples manger avec des mains rituellement impures. Voilà le reproche des pharisiens. Un reproche indirect, puisque ce sont les disciples qu'ils critiquent. Jésus s'était-il lavé les mains de manière convenable à leurs yeux? Le texte ne le dit pas, mais je pense plutôt que Christ était bien trop occupé à parler avec la foule. Mais voilà, les disciples de Christ sont ses disciples. Il est leur maître. Comment se fait-il qu'ils ne reprennent pas ses disciples sur ce point pourtant évident? Comme le dit la maxime, qui ne dit rien consent. Le comportement des disciples, c'est la responsabilité de leur maître. Comment les disciples osent-ils manger avec des mains impures? J'aime la manière dont Marc présente les choses ici. Parce que de suite, il rajoute une petite note explicative pour nous permettre de comprendre. La problématique ici n'est pas une problématique d'hygiène, à savoir si les disciples mangeaient avec des mains sales, mais plutôt de savoir s'ils avaient lavé leurs mains à la manière des pharisiens. Versets 3 et 4, les pharisiens et tous les juifs ne mange pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des cruches et des vases de bronze. Conformément à la tradition des anciens. Les pharisiens étaient les plus zélés parmi tous les juifs. Ils n'étaient pas les plus nombreux parmi le peuple, mais ils étaient les plus radicaux. Ils vivaient selon un ensemble de lois compliquées et contraignantes. Il fallait faire attention à ce que l'on disait, il fallait faire attention à ses vêtements, à ce que l'on mangeait, où on allait. Ils cherchaient à appliquer un nombre fou de lois, de règles qu'ils avaient eux-mêmes rédigées. Entre autres, le lavement des mains. Les pharisiens et un grand nombre de juifs, nous dit le texte, se lavaient les mains soigneusement, conformément à la tradition des anciens. Nous notons bien qu'il s'agit de la tradition des anciens et non pas du texte biblique. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de commandement sur la nécessité de se laver les mains avant de manger. Évidemment, c'est une bonne chose. Évidemment. Mais si vous avez des enfants, ne leur donnez pas ce verset. Évidemment. Hein, et les disciples, oui, se lavaient les mains. Le lavage des mains était seulement un commandement divin pour les prêtres. Avant d'offrir des sacrifices, les prêtres se devaient d'avoir des mains pures. Et ainsi, ils devaient se laver les mains. Les pharisiens sont venus avec des spécialistes de la loi pour pouvoir condamner Jésus, mais la critique qu'ils formulent à l'encontre de Jésus ne concerne en réalité pas l'obéissance à la loi, mais l'obéissance à la tradition. Les disciples de Jésus n'ont pas désobéi à un commandement divin. C'est à la tradition des anciens qu'ils ne se soumettent pas. Jésus ne se soumet pas à la tradition des pharisiens. Et pour les pharisiens, la tradition est au même plan que la loi elle-même, ce qui leur donne à leurs yeux légitimité pour critiquer Jésus et ses disciples. La tradition des anciens. Il est toujours compliqué d'attaquer la tradition, parce qu'elle est profondément ancrée chez les personnes. Tous nous avons des traditions. D'une culture à l'autre, les traditions sont différentes. Celle-ci, mon épouse, est américaine. Et à chaque fois que nous allons aux États-Unis, il y a des traditions qui me surprennent. Parfois agréablement, parfois moins. Mais je suis d'autant plus admiratif de celle-ci et du fait qu'elle s'adapte à une culture et à des traditions différentes. Le poids de la tradition. D'une famille à l'autre, les traditions sont différentes. Et ces traditions sont tellement ancrées qu'il est très difficile de les remettre en cause. Difficile de ne pas s'y soumettre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu hier le mariage royal. Qui l'a vu? Moi, je n'avais pas prévu de regarder. Mais quand Julia, ma fille qui a 4 ans et demi, a attendu qu'un prince allait se marier pour de vrai, nous n'avons pas eu d'autre choix que de le regarder. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà une photo du couple royal. Non? Ah non, pardon. Voilà, pardon. Pendant ce mariage, l'évêque américain qui a apporté la parole n'a pas respecté les formes guindées traditionnelles de discours. Le contenu, en fait, était très bien, mais voilà, il fallait voir le regard de la foule et de la famille royale. Si vous pouvez aller le voir, ça valait le coup. Moi, j'ai cru qu'ils allaient finir par couper son micro, tellement la forme était différente de ce dont ils avaient l'habitude. J'espère que ça ne sera pas le cas pour moi aujourd'hui. D'un pays à l'autre, d'une famille à l'autre, et même d'une église à l'autre, les traditions sont différentes. Les pharisiens avaient une tradition. La préoccupation des pharisiens, c'est d'être pur. Les pharisiens cherchent à s'assurer qu'ils obéissent à la loi de Dieu. Et pour y arriver, ils cherchaient à appliquer pour eux les règles réservées aux prêtres. Si la loi permet aux prêtres d'être purs, alors si tous appliquent cette loi, ils arriveront à être purs devant Dieu également. Le but de la tradition des anciens, au travers entre autres de la Mishnah, une compilation de lois orales, est d'expliciter la loi pour y obéir. expliciter la loi pour pouvoir y obéir. Mais la tradition en est arrivée à faire le contraire, nous verrons dans un instant. Mais la tradition, à l'origine, est bonne. Et je crois qu'il est important de dire que toute tradition n'est pas mauvaise. Moi, j'aime la tradition. Dans un culte, j'aime la tradition. J'aime la liturgie. La tradition n'est pas mauvaise en soi. Mais elle le devient lorsqu'elle en arrive à se mettre sur le même plan que la loi de Dieu. La tradition ici partait d'un bon principe. Comment être sûr d'appliquer la loi ? La tradition des anciens cherchait à répondre à cette question. À partir de quand est-ce que l'on transgresse la loi de Dieu ? Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui n'est pas permis ? Un exemple, un homme amputé pouvait-il porter sa jambe en bois pour sortir d'une maison en feu le jour du sabbat ? Voilà une des vraies questions qui était débattue. Est-ce qu'il transgresse le sabbat en prenant avec lui sa jambe de bois ? Ainsi, pour le rabbi Meir, c'était tout à fait possible. Tandis que c'était désobéir au commandement divin pour Rabbi Yossi, un deuxième rabbin du deuxième siècle après Jésus-Christ. À partir de quand est-ce qu'on désobéit ? Dans la Mishnah, il y avait l'équivalent de 35 pages d'instructions, rien que sur la manière de se laver. Comment faire pour garder son corps pur ? À partir de quand désobéit-on à la loi ? Comment faire pour être pur devant Dieu ? Voilà la question que se posait les pharisiens. Si les mains des disciples ne sont pas pures, d'après nos critères, disaient les pharisiens, alors elles ne sont pas pures. Et s'ils mangent avec des mains impures, alors la nourriture sera impure. Et alors ils seront eux-mêmes impurs. Et leurs soi-disant rabbins, qui ne relèvent même pas cette évidence, allons les discréditer. Regardons maintenant vers la réaction de Jésus. Je vous invite à relire les versets 6 à 8. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les peaux et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » J'aime beaucoup la réponse de Christ. Parce qu'il ne répond en réalité pas directement à la critique formulée à son égard. Christ ne cherche ni à se justifier lui, ni à justifier ses disciples. Jésus connaît le cœur des pharisiens. Il sait ce qu'il cherche à faire. Et au lieu de s'attarder sur un détail, Christ va directement au cœur du problème. Et ce qu'il attaque de front dans un premier temps, c'est la tradition des anciens. Vous dites honorer Dieu par vos paroles et par vos actes. Mais en réalité, Dieu incarné est devant vous en ce moment même et vous cherchez à le discréditer. Vous dites attendre le Messie, mais il est devant vous et vous cherchez à le tuer. Vous dites obéir à la loi de Dieu. Mais en réalité, cela fait longtemps que vous avez abandonné le commandement de Dieu pour vous attacher à des enseignements trompeurs et illusoires d'hommes pécheurs. Le trois fois saint est devant vous et vous l'accusez d'être impur. Par la tradition de vos anciens, vous annulez la loi. Vous croyez pouvoir vous justifier devant Dieu par la tradition des anciens, mais la loi de Dieu, la loi de l'Ancien Testament, vous condamne. Alors que vous croyez obéir à Dieu, vous faites en réalité le contraire. Et Jésus nous donnait un exemple. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il ne peut plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La loi de l'Ancien Testament est claire. Il est attendu des enfants adultes qu'ils prennent soin de leurs parents âgés. Et évidemment, tant au niveau social que financier. Mais que disait la tradition des anciens ? Il faut honorer ses parents. À moins que l'on fasse de ses biens corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Une personne, d'après la tradition des anciens, pouvait faire un don financier au temple sous la forme d'une promesse. Ainsi, la personne n'avait pas le droit de transférer son argent à un autre. Mais en plus, elle n'avait rien à donner de son vivant. Elle pouvait, en attendant, utiliser l'argent à sa guise. Ainsi, elle pouvait dépenser 99% de ce qu'elle avait et ne laisser qu'un pour cent de temps. « Papa, tu sais très bien que je ne peux pas t'aider. J'ai de l'argent, oui, mais tout ce que j'ai, j'en ferai donc autant après ma mort. Je ne peux pas te donner ce qui est réservé à Dieu quand même. Sois raisonnable. Si je n'ai plus rien au jour de ma mort, bah, tant pis pour le temps. » La loi de l'Ancien Testament est claire. Si tu n'honores pas tes parents, tu es passible de mort. La tradition, elle, permettait de ne pas honorer son père ou sa mère. La loi est-elle accomplie? Contrairement à ce que disait la tradition, non, clairement, la loi n'est pas accomplie. La loi dit une chose, la tradition une autre. Qui faut-il croire? Qui faut-il croire? La problématique présentée ici est d'abord celle d'autorité. Quelle est l'autorité? Pour savoir quelle est la volonté de Dieu, à quelle autorité faut-il se soumettre? À la tradition? Jésus relève bien la nécessité de faire un choix. Mais je le rappelle à nouveau, toute tradition n'est pas mauvaise. Mais il est important de se rappeler qu'une tradition n'est qu'une tradition. Si l'on brise une tradition, mais que l'on reste fidèle à la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Cherche-t-on à plaire aux hommes ou à Dieu? Notre autorité, c'est la Bible. Pas ce que la tradition dit à son sujet, mais la Bible elle-même. L'autorité de l'église de la rue de Sèvres, ce ne sont pas les pasteurs Matthew Sanders, Paul Harrison et Paul Bourgeois. L'autorité de l'église, ce n'est pas le conseil de l'église. L'autorité de l'église, ce n'est pas notre tradition. Notre autorité, c'est la parole de Dieu incarnée en Jésus-Christ et la parole de Dieu écrite. Voilà notre autorité. Ne faisons pas la même erreur que les pharisiens de croire que la tradition est tout aussi importante que le texte biblique lui-même. Et d'ailleurs, si notre Église existe, c'est bel et bien parce que notre autorité est la parole et non pas la tradition. Toute la réforme protestante est issue de cette question d'autorité entre parole de Dieu et tradition. Grâce à l'imprimerie, la Bible a été bien plus étudiée qu'auparavant. Et cette question a été soulevée, la Bible dit A, l'Église catholique romaine dit B, comment considérez-vous? Qui devons-nous suivre? La Bible? Ou la Bible telle qu'elle a été comprise par la tradition? À quelle autorité se soumettre? Notre réponse, l'autorité de la parole, dépasse toute autorité humaine. L'autorité de la parole dépasse toute autorité humaine. Une question. Mais qui révèle un problème au cœur. Jésus reprend fortement les pharisiens, mais il ne s'arrête pas là. Jésus appela toute la foule et dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Les pharisiens ont cherché à spécifier la loi, à préciser la loi, afin d'être sûrs de l'appliquer. Mais en fait, étaient arrivés à faire le contraire de la loi. Ils ont en réalité diminué les exigences de la loi. Et dans l'évangile de Matthieu, Christ ira jusqu'à les appeler des fous et des insensés. Parce qu'ils pensent pouvoir se justifier devant Dieu par leur comportement. Ils sont comme aveuglés. Ils ne voient pas les dégâts qu'ils commettent. Vous vous pensez juste. Vous avez tort. Vous vous croyez irréprochable par rapport à la loi? Non. Vous vous arrêtez à la lettre de la loi, mais vous ne regardez pas à l'esprit de la loi. Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Cela, Jésus le dit à trois reprises dans ces versets 14 à 23. Trois reprises. Vous, pharisiens, vous aimez vous penser pur. Mais le problème, ce n'est pas ce que vous touchez, ce que vous mangez. Le vrai problème, la vraie problématique, c'est celle du cœur. Vous vous croyez garant de l'orthodoxie juive. Et ainsi, vous me critiquez pour avoir guéri un homme le jour du sabbat, mais vous, vous n'avez eu aucun problème, même jour, le jour du sabbat, à concocter un plan pour me mettre à mort. Ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de son cœur. Verset 21, c'est de l'intérieur. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. La loi ne demande pas qu'une obéissance extérieure. La loi touche aussi aux motivations, aux aspirations, au cœur de la personne. La loi ne condamne pas seulement la mise en pratique de nos pensées mauvaises, mais elle condamne nos pensées mauvaises. L'attitude des pharisiens n'est pas juste. Ils croient pouvoir se justifier devant Dieu. Mais ils se trompent. Les pharisiens ont cru pouvoir arriver à Dieu en vivant d'après une checklist. Lire la Torah, fait. Aller au temple, fait. Donner la dîme, fait. Laver les mains, fait. Faire les prières, fait. Malheureusement, leur cœur les condamne. Leur cœur les condamne. Le vrai problème, ce n'est pas d'abord celui de la tradition des anciens. Le vrai problème, c'est le cœur des pharisiens. Les pharisiens étaient fiers de leurs œuvres, fiers de leur religiosité, fiers de leurs efforts. Et ils en sont arrivés à oublier leur péché. Dieu regarde le cœur. Le cœur des pharisiens les condamne. On ne peut venir devant Dieu et vanter nos mérites. Notre péché est bien trop grand devant Dieu. Bien trop grand. Jamais nous ne serons assez bons pour pouvoir nous justifier devant Dieu. Notre péché est tout simplement bien trop grand. Les pharisiens attendaient un Messie, oui, mais ils n'attendaient certainement pas un sauveur, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés pour eux. Ils espéraient en un Messie guerrier qui viendrait les féliciter pour leurs efforts, puis irait avec eux renvoyer l'envahisseur romain chez lui. Les pharisiens n'ont pas compris leur péché. Leur cœur les condamne. Et leur péché était tel que Jésus, Dieu fait chair, est devant eux. Et eux, personnes pourtant très religieuses, cherchent à le mettre à mort. Ils n'ont pas compris leur péché. C'est de l'intérieur, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, etc. Ils n'ont pas compris leur péché. Sommes-nous comme les pharisiens aujourd'hui? Est-ce que moi aussi, j'ai ma propre checklist de choses que je dois faire pour arriver à Dieu? Parce que ne nous trompons pas, aller aux deux cultes le dimanche, ce n'est pas très compliqué. Aller aux études bibliques non plus. En rentrer à minuit et demi les lundis soirs de conseil, ça l'est peut-être un peu plus, mais ça reste faisable. Mais qu'en est-il de mon cœur? Qu'en est-il de mon cœur? Le vrai défi est là. Faire des actes extérieurs, ce n'est pas très difficile. En revanche, regardez à l'état de mon cœur, c'est bien plus compliqué. Le problème ne vient pas de la loi, mais de notre cœur. Notre cœur nous condamne. Nous sommes bien plus mauvais, égoïstes, fainéants, lents à changer que nous ne voulons bien admettre. Notre cœur nous condamne. Mais cela, Christ le sait déjà. Et chose merveilleuse, c'est la raison même pour laquelle Christ est venu sur terre. Christ est venu parce que notre cœur nous condamnait. Parce que notre cœur nous condamnait. Il est venu pour vivre la vie que nous aurions dû vivre. Et il est venu pour mourir de la mort que nous aurions dû connaître. Parce que notre cœur nous condamne. Les pharisiens cherchaient à obéir à Dieu, ce qui est tout à fait louable, mais ils ne le faisaient pas pour de bonnes raisons. Nous avons un avantage énorme sur les pharisiens. Nous savons ce que Christ a fait pour nous. Et nous avons ce privilège de savoir ce que Jésus a fait, qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous sur le bois. nous voyons l'amour immense, cet amour intégral de Dieu. Les pharisiens auraient dû voir l'amour de Dieu. Et parce que l'on voit l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, on voit cet amour. Et parce que celui qui était amour, il est debout devant eux. Ils ont vu son amour avec leurs propres yeux. Ils ont fermé leur cœur. Mais notre privilège est bien plus grand encore. Nous avons vu la grandeur de cet amour. La grandeur de cet amour. C'est à la croix que l'on peut vraiment voir l'ampleur, la majesté de l'amour de Dieu pour nous. C'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime malgré notre cœur. Dieu nous aime au point de donner son propre Fils en sacrifice pour nous. Notre cœur nous condamne, mais Christ, lui, nous justifie. Peut-être n'avez-vous pas encore fait de Jésus votre sauveur. Ne tardez pas. Ne tardez pas. Regardez à l'amour que Christ a eu pour vous. Comprenez cet amour. Et votre vie sera transformée dès à présent. Regardez à la vie de Christ, à sa mort. Et vous comprendrez pourquoi nous nous retrouvons chaque dimanche et pourquoi nous essayons aujourd'hui de vivre pour lui. C'est extraordinaire ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Notre cœur nous condamne, mais Christ, lui, nous justifie. Notre salut, notre futur ne dépend pas de nos actions, parce que nos actions nous condamnent. Mais c'est Christ qui nous donne la vie. C'est Christ qui nous donne le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu son Père. Notre espoir, c'est Jésus.